Salut Marc, salut les Smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné comme toujours de l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde. Je viens de me rendre compte que je faisais des gestes à la con pendant ton intro comme d'hab, mais en fait, on n'est pas en vidéo aujourd'hui. Donc
non, pas de vidéo aujourd'hui, des petits moyens, puisque voilà, nous ne sommes pas la WWE, nous ne roulons pas sur l'or et parfois le temps nous est compté. Là, si j'étais Dean Ambrose, je ferais une mauvaise blague, mais au programme de cet épisode de SmackDown Live, Daniel Bryan dort dans une chambre d'oxygénothérapie hyperbarique, Charlotte est pas des os, et le Miz a un plan de carrière pour Shane McMahon. Giscal, nous sommes 2 jours après les Survivor Series, il est temps donc de faire le bilan a été dur pour SmackDown, voilà, si vous n'avez pas suivi, pas à aller écouter ou voir notre review de ce pay-per-view qui a mis à l'honneur Monday Night Raw plus que SmackDown Live, puisqu'on s'est fait un petit peu raser les poils du cul, on peut dire ça comme ça. Du coup, il est temps de faire les comptes et de passer à autre chose, il faut le dire ce qui est. C'est Charlotte, d'ailleurs, qui ouvre le show, elle est là, on se souvient qu'elle a passé à tabac très largement Ronda Rousey, provoquant sa propre défaite. Et Charlotte est fière, très très fière de ses agissements. Elle n'est pas du tout désolée pour Ronda Rousey. Elle se prend une pop énorme auprès du public. Donc on est toujours dans le même délire de ce qui s'est passé dimanche soir. Elle a promis à Becky Lynch qu'elle allait détruire Ronda Rousey. Et on est d'accord. Mission accomplie. Mission accomplie pour la Fifler. Et elle lui dit, alors si elle me cherche, elle me trouvera à TLC. C'est bien ce qu'elle lui dit à Ronda Rousey.
Oui, absolument. Ouais.
On se retrouve à TLC, même si à TLC, Ronda Rousey a un match contre Nia Jax, déjà, je crois.
Oui, absolument. Ouais.
Elle sera dans les parages, visiblement, Charlotte. Voilà, donc on continue de monter un petit peu ce fameux programme, la parallèle à celui avec Becky Lynch. Ouais. Paige arrive, lui remonte les bretelles, tout en lui disant « Ouais, t'as tapé les arbitres quand même, là, c'était pas bien la dernière fois. » Donc, elle lui balance une amende, voilà, oui, pour la punir.
100 000 balles,
c'est toujours...
Non, combien, 10 000, 100 000, je sais plus.
Ça pourrait être 1 million, que ça ne change rien. Le gros bullshit que c'est que ces amendes. Franchement, c'est complètement con. Je préfère encore qu'il joue la carte de t'es suspendu plutôt que des amendes, quoi.
Enfin... Ah, si c'est 100 000 balles, c'est pas mal, quand même. Hein. Ça fait un petit peu d'argent. Mais bon, elle avait pas l'air trop affectée, ça va. Je sais plus si c'était 100 000 ou 10 000, en fait.
Ah, je sais pas si tu t'as remarqué, mais Paige a quand même... je sais pas trop à quel point ils ont adapté un petit peu le discours, parce que finalement, Paige a dit « Ouais, on est tous fiers de toi, Charlotte, SmackDown est fier de toi, etc. » Enfin, c'était un peu étrange. On navigue vraiment
c'est
dans des eaux un peu troubles, là, où c'est pas compliqué. Les filles à SmackDown, elles sont over en ayant des purs agissements de heel. Et derrière, en plus, t'as le GM qui fait « Bon... je suis obligé de te mettre cette amende là parce que voilà, t'as tapé des arbitres, mais quand même bien, bien GG quoi.
Oui, le discours était très chelou. Oui. C'était limite si elle lui tapait pas dans le dos. Oui.
C'était assez bizarre. Bon, après, on a les Iconics qui débarquent, qui se moquent de Charlotte la folle, évidemment, à tête creuse. Et puis il y a match parce que Charlotte leur dit bah, écoutez, les filles, voulez-vous battre? Enfin, un peu comme Ronda Rousey la veille à Monday Night Raw, toi, elles sont encore dans le sang chaud là, les deux. Ronda Rousey et Charlotte, et du coup, elles veulent se battre. Et parce que c'est Charlotte et qu'elle veut faire mieux que Ronda Rousey, elle ne fait pas un, mais deux matchs, puisqu'elle affrontera les deux Australiennes d'affilée. Elle dispose d'abord de Billie Kay, et après, elle s'occupe de Peyton Royce, même si au final, ça passe à un passage à tabac. Ça se transforme en passage à tabac sous les vivas de la foule. Charlotte qui. Enfin, c'est les deux Australiennes, deux iconiques au début. Je ne sais pas si elles vont jusqu'au bout du match, je ne me souviens plus. À la fin c'est grosse brawl et puis Charlotte qui
match,
sort,
c'est ça.
Qui en sort vainqueur. C'est bizarre, la langue française est si belle mais parfois si contraignante. Voilà, clairement on continue le programme pour Charlotte. Charlotte, est-ce que, enfin voilà, elle nous a ouvert le show, tout est un petit peu chamboulé en termes, toi, d'alignement.
Ouais.
Elle est quand même hyper over. On ne sait pas vraiment sur quel pied la WWE est en train de danser là, avec le double K, le triple K même, Rosie, Charlotte, Becky Lynch.
Ouais, non, c'est très très bizarre. Je sais, encore aujourd'hui, j'avais mis sur le Discord que je savais pas, après l'avoir vu, je savais pas trop quoi penser de cette promo. Et je pense que je sais toujours pas trop quoi en penser. C'est un mix d'excitation et de perplexité. C'est assez troublant parce que quand t'écoutes la promo, et t'as mis le doigt sur un passage assez, assez clé de la promo qui est Paige qui dit que SmackDown est vachement fier de toi, Charlotte, et tout, machin. On avait vraiment l'impression. Voilà, c'est parce que c'est, je suis loin d'être le premier à dire ça parce que je l'ai vu sur Internet, sur pas mal de sites. Mais on avait l'impression qu'ils avaient pris le script de Becky Lynch et que, en fait, ils avaient continué comme si de rien n'était l'histoire qu'ils avaient prévu de faire avec Becky, mais en la remplaçant par Charlotte. Parce que c'était sensiblement... on ne s'attendait pas du tout à ce développement scénaristique, enfin, en tout cas, moi, pas. Charlotte a complètement craqué au Survivor Series, pensant qu'elle n'était pas capable de battre Ronda Rousey, a pété un câble, et elle lui a infligé le beatdown de sa vie.
Vous l'aviez souligné lors de la review, hein, c'était assez...
Voilà, exactement, et elle avait l'air complètement en furie, insensée, on l'avait jamais vue comme ça, et on se dit que bah voilà, c'était, elle a craqué, c'est l'aube d'un développement pour elle, d'un nouveau personnage, quelque chose peut-être dans la continuité de ce qu'on avait vu avant la fameuse blessure de Becky Lynch, où elle était en plein doute, elle avait disparu du circuit, on se demandait si elle n'était pas en train de se remettre en cause et tout, enfin machin. Et alors là, c'est une Charlotte complètement ouais, différente, mais pas ce qu'on attendait qu'arriver, qui est ultra
sûre d'elle.
Ultra sûre d'elle, alors qu'elle a retrouvé toute sa confiance d'un seul coup, qu'a retrouvé voilà ce flair, hein, parce que sans mauvais jeu de mots, mais voilà ce panache à la flair qu'elle a, très le visage haut, l'œil vif, voilà, elle toise un peu sa cour, enfin c'est redevenu la reine, mais et ils essayent voilà de pousser après avec cette double victoire à la suite sans l'aide de personne sur les Iconics et ce discours, on a l'impression qu'ils essayent de faire une sorte de seconde ce qui a marché avec Becky Lynch, ils essayent de le copier-coller sur Charlotte Flair, voilà, c'est la face qui a des actions litigieuses mais qui est tellement badass que elle est encouragée et mine de rien ça a l'air de fonctionner. Parce que Charlotte, on s'en souvient, elle était quand même assez copieusement huée ces 3-4 dernières semaines pendant toute sa feud avec Becky Lynch et après. Il y avait des petits frémissements dans le public. Tu sentais que le public réagissait pas trop mal à ce discours et que ça plaisait. Alors toujours très étrange, voilà, ce Ronda Rousey qui se fait huer et tout. Mais voilà, c'est pour ça que c'est un peu chelou cette promo, parce qu'on a l'impression. On se demande s'ils n'essayent pas de nous faire un truc bizarre de copier-coller de Becky Lynch. Et en même temps, d'une certaine manière, ça fonctionne. Et c'est assez excitant parce que c'est vrai que cette sorte de méta-storyline entre les femmes inter-show qui se retrouvent une fois toutes les 4 semaines avec cette menace de se dire écoute, je te retrouverai à TLC quand on se recroisera. Voilà, c'est cette feu inter-émission. Je trouve que c'est assez frais et c'est assez stylé. Depuis la séparation des shows, on n'en avait pas trop eu. Donc voilà, je sais pas trop quoi, c'est à la fois assez cool et en même temps je me demande vraiment quel est le chemin qu'ils prennent, quoi.
Pour moi c'est évident qu'ils ont collé, enfin ils ont juste changé d'acteur.
Oui, mais
ils
c'est
ont
ça.
Gardé le personnage. Ouais. Voilà. Ouais, tu sais, c'est comme ces pièces de théâtre où ils font tourner les acteurs.
Ouais, exactement,
mais c'est pas le même personnage. Et c'est cette impression là que j'ai eue. J'ai dit, ouais. En fait, on a un body double de Becky Lynch, là, quelqu'un qui veut se faire passer pour Becky Lynch, qui est en train de nous déclamer un texte qui a été écrit pour Becky Lynch, qui ressort d'un match dans un pay-per-view qui a été construit pour Becky Lynch.
Et c'est à se demander si du coup, c'est même pas, ça se trouve, le scénario du match qui a été joué sur Survivor Series, c'est exactement ce qu'ils avaient prévu de faire avec Becky Lynch. C'est très possible.
Et ouais, donc, ça se demande.
C'est ça qui est troublant, en fait.
La réaction qu'a reçu Ronda Rousey était même du coup, Enfin, c'est vraiment étrange parce que tu te dis, ok, la réaction qu'a eu Randall aussi était peut-être du coup presque celle qui était attendue vu la pop dont bénéficie Becky Lynch. Les autorités, les mecs se sont dit, c'est difficile pour Randall aussi. On l'avait déjà dit que ça allait être difficile pour Randall aussi et Charlotte de pallier l'absence, de jouer avec l'absence de Randall aussi. Mais là, clairement, les gens sont tellement projetés à travers Charlotte. Vu l'absence de Becky Lynch, que finalement, c'est ça, c'est à défaut d'avoir Becky Lynch, on a Charlotte qui aurait pu mettre le costume, faire un cosplay de Becky Lynch.
Ah oui, complètement. Ouais,
elle aurait pu teindre ses cheveux en orange.
C'est vraiment ça qui est perturbant, c'est qu'en fait, cette promo, elle te remet en question finalement tout ce que t'as vu au Survivor Series. En te disant, et d'ailleurs, du coup, parce que nous avons Raphaël qui chatte avec nous un petit peu en direct pendant cet enregistrement audio et qui avait le même questionnement, justement, exactement. Donc, c'est un peu un sentiment qui est généralisé là au sein de toute notre équipe et je pense au sein de pas mal de monde, qui est de se dire finalement, est-ce que finalement, il n'y a pas eu juste. Ils ont rien improvisé, ils ont juste changé d'acteur. Et maintenant, est-ce que c'est. J'espère que c'est pas trop inquiétant parce que tu en sais jamais trop sur quel pied danser avec le WWE. J'espère que c'est pas trop inquiétant pour Becky Lynch qui s'est peut-être pas fait repiquer la place entre guillemets.
J'allais te poser cette question.
Ça va tellement vite parce que le catch ça va tellement vite et c'est vrai qu'on sortait de Survivor Series quand on l'analysait avec Crix, on se disait c'est vrai que. Ce match était tellement fou et puis cette Charlotte était assez intéressante qu'on se dit est-ce que ça rebat pas les cartes et est-ce que finalement on n'a pas à nouveau envie de voir Ronda Rossi Charlotte à WrestleMania. Sauf que du coup il y a Becky Lynch dans les coulisses maintenant, on se demande ce qui va se passer.
J'ai oublié moi Becky Lynch, je m'en fous de Becky Lynch.
C'est très perturbant cette situation. Alors après voilà, comme on l'avait dit encore au Survivor Series et encore une fois on peut abondance de biens ne nuit pas, enfin c'est des problèmes de riches entre guillemets parce qu'on se retrouve avec une multitude d'affiches qui nous excitent maintenant. Aura aussi Lynch, aura aussi Flair, Triple Threat, Fatal Four Way, avec une autre heel, ça peut être tout plein de trucs, mais voilà, c'est il y a un vrai questionnement après cette promo. Je suis très perplexe.
Ben voilà, donc effectivement, c'est très intéressant, vraiment ce qui se passe là, c'est très intéressant parce que ça mélange beaucoup, beaucoup d'aspects du catch, hein, personnages, les acteurs, les histoires, enfin comment tout ça est géré. C'est vrai que je suis très curieux de voir comment ils vont faire rentrer Becky Lynch dans la danse.
Ouais.
Moi, voilà, je trouve quand même que c'est entre guillemets pas, enfin c'est pas que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais je trouve que c'est très dangereux et que ça fait presque preuve d'une, d'avoir fait ça. Et surtout, je suis un peu frustré parce que visiblement il y avait un autre chemin qui était prévu pour Charlotte et on l'aura peut-être jamais et qui aurait pu être très intéressant. Donc à voir quand va revenir Becky Lynch, comment tout ce monde. Quelle place elle va réussir à retrouver, quoi.
Bah ouais. Cette rumeur des Four Horsewomen là, de la MMA, machin. Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce que justement, est-ce qu'on essaye de commencer
la hype monte. Enfin, on a quand même construit les trois. On a déjà trois actrices de ce 4v4 qui sont déjà très bien hypées. Enfin, je veux dire, Charlotte, une team Charlotte et Becky Lynch. Les gens vont être au taquet parce que là c'est la fusion team. Elles ont un ennemi commun, elles sont hyper over, tout en étant très dans des segments très agressifs, elles se cherchent toutes les trois. Enfin, si ça mène pas, ça se trouve on va vraiment se le taper le 4v4 à WrestleMania, ça va pas attendre parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait il y a plus grand chose à faire là. Hein. Tu fais monter Shayna Baszler d'ici WrestleMania et c'est parti, hein.
Ouais.
T'as ton 4v4, hein, tellement c'est la storyline chaud bouillante, la division féminine. Donc,
enfin, en tout cas, voilà, c'est jusqu'à ce qu'on voit les os brouillard se dissiper sur la situation entre Becky Lynch et Charlotte. Est-ce que c'est un remplacement? Est-ce qu'ils vont se rendre compte que finalement, ils ne peuvent pas remplacer Becky Lynch comme ça et qu'il va falloir la réintégrer et tout ça? Enfin bref, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, ce que je retiens de ça, c'est que j'adore cette intensité qui se développe entre Ronda Rousey et les filles de SmackDown et qui fait que maintenant, ça crée une sorte de hype à chaque pay-per-view de se dire, même si elles ne sont pas impliquées l'une contre l'autre, bah, il va peut-être se passer des trucs. Tu vois, genre là, elle lui a clairement donné rendez-vous. Bah, c'est un petit peu un selling de TLC qui est stylé. Quoi. Voilà. Ok, il va y avoir Ronda Rousey contre Nia Jax, on s'en fout. Mais il y a Charlotte dans la coulisse. Enfin, voilà, on sait pas
raison,
ce qui va se passer.
On se plaignait, suffisamment. C'était pas grave, toi, mais c'était un peu une forme de frustration où finalement les mecs, enfin, il n'y a pas d'interactivité entre les shows, quoi, alors qu'ils ont remis les pay-per-view Interbrand. Et c'est vrai que là, c'est une façon aussi maligne de donner envie de suivre les deux shows. Hein,
complètement.
Tu vois,
que
va
répondre
la prochaine semaine. Ouais. Donc là, en plus, avec cette menace-là. Puis c'est bien de montrer que les gens se détestent. Enfin, c'est bien des gens qui se détestent.
Évidemment.
Ils n'ont pas juste un ennemi, ils en ont plein partout. Ils ont envie de leur casser la gueule à la récré. C'est ça aussi qu'on veut voir. Bon, bah, une affaire à suivre, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, on enchaîne encore sur du gros lourd, je trouve, sur quelque chose. Presque, on a eu des gros segments de promo hein, ce mardi, il faut se l'avouer, il y a eu comme du... Voilà, entre le ring, on n'a pas réussi à faire la différence entre les cordes dimanche, donc on va faire la différence sur les promos. Et c'est Miss TV, c'est l'heure de Miss TV qui accueille Shane McMahon, un Shane boiteux qui a du mal à rejoindre le ring. Alors, le Miss fait l'éloge hein, du dernier survivant de SmackDown. Ils ont tout sacrifié pour SmackDown, hein, c'est vrai. Ils ont tout donné. Ils ont fait le saut du pull turnbuckle à travers la table. Ils ont fait des coast to coast. Enfin, il dit nous avons fait des coast to coast. Le Miss se projette totalement.
Oui, oui.
Donc, le Shane lui rappelle un petit peu, dire enfin, c'est moi qui ai fait tout ça, quand même.
Ouais.
Et le Miss a une proposition à lui faire. Miss a une proposition à lui faire. On voit. Voilà, il a une idée derrière la tête, ça se voit, il grand sourire, il lèche les coucougnettes de Shane McMahon.
Allègrement,
voilà, généreusement, t'es, à mon avis, comme une bonne glace là en été. comme je suis les deux tiers du meilleur du monde et que t'es le un tiers, il y a un truc, et là il dit, est-ce que tu veux devenir mon compagnon de tag team? Donc voilà, c'était très drôle.
Ça faisait demande en mariage, c'était génial.
C'était une vraie demande en mariage.
Si c'était à genoux, ça aurait été encore plus drôle, je pense.
Ouais, je pense qu'il aurait dû faire ça, il aurait pu le faire. Mais peut-être
il a loupé quelque chose. Ouais.
Ah ouais, il n'est donc pas parfait. Donc il lui propose de créer une alliance, une équipe. Toi et moi, il y a un truc, il y a une alchimie, on est les meilleurs du monde, on peut être la meilleure tag team. C'est vrai que, dit comme ça.
Ça a du sens.
Ça a du sens. Mais Shane n'est pas trop chaud, hein. Il n'est pas trop chaud. Voilà, c'est pas sur sa fiche de poste. Petit clin d'œil à notre gros débat en interne. Shane McMahon est-il un catcheur? J'invite nos auditeurs à donner leur avis. Est-ce que Shane, le fils de patron, est-il un catcheur ou pas? Est-ce qu'il est one of the boys comme il le désire tant hein? C'est ça qu'il veut, Shane McMahon. En tout cas, le Miz, il n'a pas attendu. Il a fait venir deux freelance, deux locaux. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Ah oui, c'est les frères Bryant. Donc, deux ablettes, hein, voilà. Deux crevettes là, qui viennent se battre, qui viennent un petit peu se faire rouler dessus. Donc, le match commence. Il y a l'arbitre qui est là. Le Miz est plein d'entrain. Shane est là. Il est un peu comme ça. Il regarde un peu ce qui se passe. Il dit, vas-y, montre-moi. Il n'est pas très convaincu. Mais aveuglé par la volonté de bien faire, Miz se fait prendre en relop. Et donc, il provoque ainsi la défaite face à un Shane un peu circonspect, mais qui rigole un petit peu sous cap, qui, je pense, finalement, a été un petit peu amusé par ce qui vient de se passer, un peu touché. C'était touchant, ce Miz, hein, qui voulait tellement bien faire.
Ouais.
Et il est désolé, Miz. Ah, je suis désolé, je comprends pas. Non, enfin, on sent qu'il a déçu Shane et que ça va le tirailler pendant de longues semaines. Est-ce que toi aussi, le Miz t'a déçu? Et est-ce que Shane est un vrai catcheur? En tout cas, suffisamment catcheur pour rejoindre la division par équipe, déjà bien, bien, bien occupée de SmackDown.
Ouais, alors, je suis partagé sur cet angle en fait, parce que d'une certaine manière, j'ai envie de ça. Je trouve que c'est une super idée, c'est assez frais et ça peut être très, très drôle et il y a moyen de vraiment se marrer. Mais en fait, Je suis à la fois, donc du coup, j'ai envie de le voir et j'ai pas envie de le voir parce que je connais la capacité de la WWE à ne jamais savoir mettre la limite là où il faut. Et c'est le genre de truc qui peut prendre beaucoup trop de place s'il commence à se bidonner en coulisses sur ce machin-là. Et après, tu vas en prendre à toutes les sauces et ils vont être champions et machin. En fait, si c'est borné à de la comédie. Et à des histoires originales, je sais pas, là j'ai pas d'idée comme ça à proposer, mais en tout cas, voilà, à de l'originalité, à de la fraîcheur et que ça n'empiète pas trop sur le sérieux, on va dire, que propose la division tag team de SmackDown, qui est la division tag team reine ouais. Entre les deux shows, clairement, avec les Usos. Bon, on verra qu'on pourra parler du New Day The Bar après, mais bon, moi ça me dérange pas, et Sanity et compagnie. S'ils arrivent à nous faire un truc gentil, fun, inoffensif, ça me va, sauf que j'ai toujours peur avec ces trucs là, et puis surtout quand ça implique Shane, que bah, c'est, on connaît, hein, ça peut déborder loin, donc c'est, voilà, c'est mon seul.
Il a quand même des grosses couilles, donc
il a quand même de très grosses couilles, puis c'est quand même un tiers du meilleur du monde, donc non mais bon voilà, c'est ma seule petite crainte. Après sinon au-delà de ça, j'ai trouvé que le Miz TV était je me suis vraiment beaucoup marré. Le Miz est un formidable faillot, vraiment c'était pas son rôle de faux cul lécheur de bottes habituel, c'était vraiment, je trouve, c'était plus enfantin, on avait l'impression de voir un petit premier de la classe qui essayait d'impressionner le professeur, et je trouve qu'il le tenait bien son perso et c'était drôle à regarder, donc j'ai trouvé que c'était très très marrant. Et puis bon, après le petit match tag team, bon voilà, c'est pour commencer cet angle de séduction, donc on va voir, mais franchement une petite tag team pendant quelques mois, enfin en tout cas pendant un ou deux mois, et puis avec après une trahison et un match entre les deux, un match qui serait du cabotinage pur et tout, ça pourrait bien me faire marrer moi perso.
Ouais, écoute, t'as raison, je suis désolé hein, mais t'as raison. pas tant toi t'as raison, mais effectivement là clairement on sait que SmackDown ils sont habituellement assez forts pour traiter des angles de la comédie, ouais. Avec des séquences backstage, avec voilà, sans que ça empiète forcément trop sur le reste du show,
par exemple, tu vois.
Genre R-Truth,
c'est un produit pur SmackDown.
La Fashion Police, voilà, qui sont drôles et qui sont frais, qui sont plus dans l'air du temps et qui font pas faire des facepalm parce que c'est pipi caca et
voilà.
Et voilà, qui chamboule pas Internet à cause de ça. Mais je suis d'accord que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé cet angle-là et j'ai envie de voir que ça continue parce que je suis aussi très frustré qu'ils aient pas continué l'angle avec Miz et Daniel Bryan.
Bah oui.
Un peu du même acabit, on va dire. Et du coup, bah voilà, au lieu d'avoir cette bromance Miz Daniel Bryan, on va avoir un peu de cabotinage entre le Miz et Shane McMahon, un peu de faillotage, etc. Et les deux vont être, enfin les deux, on voit, ça va marcher, je pense, ça va matcher.
Je pense. Ouais.
Voilà, faut juste qu'il s'approche pas de la ceinture. Voilà, qu'il laisse
oui,
les choses.
C'est le seul
sérieux
truc,
garçon.
Fait un peu peur, c'est qu'il serait capable de pousser le truc au max, quoi. C'est le seul souci avec eux, quoi.
Bon, par contre, là, ça va pas forcément aller trop dans notre sens. Tu en as parlé, la division tag team SmackDown, et ben c'est aussi le New Day qui célèbre Thanksgiving. Ils avaient un t-shirt 6-1, team 6-1, pour rappeler la victoire qui n'a pas été comptabilisée dans le kick-off de Survivor Series. D'ailleurs, ça donne quoi les avocats? Je sais que tu les avais contactés.
Ça avance, c'est un peu compliqué, mais
n'hésite pas à contacter Netflix. Hein, ils pourraient faire une série là-dessus.
Ouais. Voilà. Ça avance, on continue de se battre. On n'a pas encore réussi à avoir une audience. Mais la vérité sera rétablie, je suis sûr.
De toute façon, la vérité finit toujours par éclater. Voilà, il y a des dindes bien chaudes qui sont mises sur la table. Et ça devient un peu trop hot là, pour les vegans, je pense.
Oui.
Du coup, The Bar, ils débarquent, c'est la brigade. Ils sont toujours aussi désabusés par les agissements idiots du New Day. J'aurais tenté de dire presque nous aussi. mais bon, voilà, hein, jeudi, c'est Thanksgiving. Donc, on est à deux jours de Thanksgiving, donc c'est le rituel, hein. Tous les ans c'est comme ça.
C'est tous les ans comme
ça. On a donc le millième New Day versus The Bar et ça se balance dans les dindes et les tables. On se fourre le cul avec des dindons et à la fin, je sais même plus ce qui se passe, victoire du New Day à la fin, victoire du New Day sur The Bar, je crois. Ouais, c'est oui. ça. Une victoire du New Day avec Cesaro, je crois, qui se fait rouler, enfin, qui se prend tout dans la tronche, la farine, le beurre, les épinards.
Ah bah oui, après le match, il prend toutes les tartes dans la figure. Ouais, coup de dinde, en
voilà,
effet.
Donc bah, joyeuse Thanksgiving à toi, Giscard, en tout cas.
Bah écoute, joyeux Thanksgiving à toi aussi. Voilà. Bon, non, mais c'est, ouais. bon, c'est le match annuel qui est pas pour nous, quoi. Voilà, c'est tout, hein. On va pas en faire toute une histoire. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, on se tape la tête contre les murs à se dire c'est quoi ces gros beaufs qui font des batailles de bouffe dans le ring. Bon, mais écoute, c'est comme ça, on l'aura oublié la semaine prochaine. Moi franchement, j'ai fait mon deuil depuis très longtemps, donc je m'exaspère plus du tout de ce genre de match. Je l'ai pris pour ce que c'était, une célébration de vacances, les Américains, voilà, ça leur fait plaisir de voir ça. Ils se sont marrés, les gentils ont gagné. Fin de l'histoire, il y a rien d'autre de plus à voir. C'était rigolo, toujours, voilà, la petite promo du New Day avant avec le 6-1, ils ont fait une référence à la streak de l'Undertaker, hein, we are the one in the 6-1 comme
oui c'est vrai
comme avant du coup Brock Lesnar était le 1 dans 20-1 ou je sais plus quoi là, donc
regrette presque un petit peu quand même que les Ouzo n'étaient pas là alors que c'est eux les vrais 1 dans le 6-1.
C'est vrai.
De catcheurs et de catcheuses ont été mis un peu au repos hein, après ce gros dimanche
oui,
là.
Il y avait beaucoup d'absents, oui, clairement.
Donc, effectivement, et puis les New Day se prêtent plus facilement à ce genre d'exercice. Ça me dérange pas que les Ouzo soient.
Loin de tout ça, oui.
Ouais, loin de tout ça, voilà, c'est ça. Allez, on attaque une autre division. On revient à la division féminine, puisqu'on avait un Naomi Asuka versus Mandy Rose et Sonya Deville. Bon, écoute, pas grand-chose à dire là-dessus, non. Sinon que Asuka lock sur Sonya Deville qui tape out. Donc voilà, victoire des gentils sur les méchantes et toujours cette mésentente qui est teasée entre Mandy Rose et Sonya Deville. Alors pour moi, la mésentente, ouais. Elle était ouais. déjà actée. Enfin, toi, il y a des fois, c'est un peu chelou quand ils font comme ça un peu des allers-retours. Genre, je vois même pas pourquoi elles se sont mises ensemble en fait, puisqu'elles étaient vraiment putrées copines.
Ouais, c'est vrai que je sais pas.
Signaler,
non, il n'y a rien à signaler. Non,
on n'est pas là à se dire, mais putain, vivement qu'il la fasse, cette division tag team de filles, parce que là, on a l'impression que ça fait 6 mois qu'ils la construisent et que du coup...
Ils en ont des équipes, hein, des matchs tag team de féminin, ils en font, ils en proposent à tire-larigot. Mais bon, c'est pas encore là. Non, mais j'ai pas... Ouais, en effet, c'est vraiment pas en balance. Je ferai le même commentaire que ce que je fais à chaque fois que je parle des divisions, enfin des histoires de low-card à Raw ou à SmackDown, c'est à la limite j'apprécie juste voilà la volonté de mettre en scène en tout cas une continuité dans la low card au même titre que dans les feuds principales. C'est le seul truc que je trouve positif dans cette histoire, c'est qu'au moins il y a un programme qui se suit semaine après semaine. Après, il est pas forcément intéressant, mais bon, c'est difficile de s'intéresser à tout le monde, donc là en effet c'est pas terrible, ouais.
On a juste R-Truth qui nous apprend qu'il y a des moules à gaufres WWE. T'as vu ça?
Oui, en effet. Et voilà, c'est pour le Black Friday peut-être aujourd'hui. Hein. N'oubliez pas, c'est le Black Friday. Si vous voulez votre moule à gaufre à moins 50%, c'est aujourd'hui.
Voilà. Écoute, je me permets d'inverser le main event et le vrai main event. Ça te dérange pas?
Pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire.
Randy Orton Mysterio, il se cherche. Randy Orton n'aime pas Rey Mysterio. On a une petite promo de Rey Mysterio et une petite promo de Randy Orton. Randy Orton veut retirer le masque de Rey Mysterio. C'est tout le match qui va nous être raconté ce soir, puisque très tôt dans le match, Randy Orton va essayer d'arracher le masque de Rey Mysterio. Et c'est marrant parce que à chaque fois que Rey Mysterio manque d'avoir son masque arraché, on est toujours tous là accrochés à son siège, genre oh putain, on va voir le vrai visage de Rey Mysterio, mon dieu. Enfin, c'est marrant.
Hein, toujours efficace, hein. Ouais, ça marche. On se fait avoir à chaque fois. Hein. Ça fait 15
très,
ans
très
maintenant.
Loin.
On se fait
il
avoir
va très très loin, Randy Orton, dans son envie d'arracher le masque, puisque il lui arrache vraiment. Donc ça pendouille un petit peu. Les 619 ne passent pas. Au contraire, RKO, double RKO même de la Vipère pour la victoire. Et après, Orton va chercher une chaise. Alors les chaises, on sent que TLC arrive, hein, parce que les mecs, ils se posent plus de questions. Ils vont chercher des chaises à la fin du match pour passer à tabac leurs adversaires. Il le met autour du cou de son adversaire et il lui balance il lui pique son masque, hein, à la fin. Donc Rey Mysterio perd son masque, on aperçoit presque son visage, il a la tête dans la chaise. Les officiels, le staff médical arrive et lui mettent une serviette comme ça sur la tête pour masquer son visage. Voilà, ils ont eu des consignes et Randy Orton repart donc avec un nouveau trophée, le masque de Rey Mysterio. Randy Orton et continue son chemin de destruction des chouchous du public.
Ouais. Ouais, il continue sa route. Bon.
Sur la route.
C'est agaçant parce que franchement, enfin, il y avait. C'était pas mauvais, c'était même loin d'être mauvais. Je trouvais que le match était
correct.
Était plutôt pas mal. Les teasings pour d'enlever le masque de Rey Mysterio, c'est un grand classique, mais ça fonctionne toujours. Le RKO final sur le splash à l'extérieur du ring là, de Rey Mysterio est de toute beauté et sans doute rentré dans le top 10, si ce n'est dans le top 5 des RKO les plus smooth de l'histoire de Randy Orton qui ne cesse de nous surprendre avec toujours ce finisher. C'est le meilleur finisher, de toute façon. Il y a tellement de possibilités avec ce finisher. Mais donc encore une fois, c'était super. Et puis, en soi, la feud est plutôt bien parce que ça rentre bien dans le... Rey Mysterio, là, était inoccupé. Et puis, ça rentre bien dans le personnage de Randy Orton, d'ultra salopard sadique. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à m'enflammer pour ce truc. Et je n'ai pas encore réussi vraiment à m'enflammer pour la feud qui va en découler. Est-ce que c'est parce que c'est deux anciens, peut-être un peu. C'est un peu du réchauffé d'une certaine manière. Alors, c'est très efficace, mais je ne sais pas, il manque un truc. En tout cas, là... Ce match-là ne m'a pas encore donné, m'a pas encore mis la bave aux lèvres là d'en voir plus quoi. J'ai pas eu cette petite étincelle là. Il m'a manqué quelque chose. Je sais pas. Je saurais pas trop mettre le doigt dessus. Mais voilà.
Bon, écoute, moi, je trouve que voilà, ils font le boulot. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui pouvaient aussi un petit peu. Enfin, tu l'as dit, ces deux anciens. En plus, c'était en main event, donc. Tu dis,
oui, il continue à faire beaucoup de main event, Randy Orton.
C'est ça. Donc, alors qu'on sortait d'une grosse séquence dont on va parler juste avant, une grosse promo, moi ça me va parce que je trouve que Randy Orton est vraiment bien utilisé.
Oui.
Que le coup du masque, moi ça marche à chaque fois. Rey Mysterio, il est bien, il est en forme. Et que Randy Orton a fait un beau programme avec Jeff. Donc, je sais pas, je trouve que tout ça fonctionne plutôt bien. Donc, à la fin, je me suis pas dit, tiens, la rivalité va continuer, mais si continue, ça va occuper tout ce beau monde. Pourquoi pas, toi? Pour une fois qu'on sait quoi faire de Randy Orton,
lui au moins,
des darons de SmackDown sont plutôt bien utilisés. C'était un main event peut-être un peu étrange, parce que c'est très parallèle à tout ce qui se passe, mais ça fonctionnait. Allez, on va parler du vrai main event, la promo de Daniel Bryan. Daniel Bryan, il vient, il a la ceinture sur l'épaule, il a son petit cardigan là de vieux de papy Bryan, il est presque en charentaise. Daniel Bryan, il vient, donc il s'approche du ring, on sent qu'il a changé, Daniel Bryan, c'est plus le même, il nous explique, alors là, il commence à nous faire l'historique, comment on en est arrivé là. Donc c'est la grosse explication. D'ailleurs, si je manque des morceaux, n'hésite pas à les ajouter. Oui. Donc il nous explique que pendant toute sa convalescence, il a passé des heures là dans sa chambre d'oxygénothérapie hyperbarique, on a vérifié avant d'enregistrer, à méditer. Donc c'est ces chambres-là, comme pour les cyclistes, hein, qu'ils utilisent pour revitaliser ton corps à base d'oxygène purifié, etc. Et donc, pendant ce temps-là, il a eu le temps de méditer. Hein. T'es tout seul dans ta chambre pendant que le monde continue de tourner. Donc, il a beaucoup discuté avec lui-même. Quand il est revenu, c'était fou, hein, finalement, qu'il est revenu, qu'il est sorti de sa retraite. C'était la folie, toi, tout le monde était là pour l'accueillir. C'était formidable, un retour en fanfare hein, pour lui. Puis finalement, et ça, c'est vrai, hein. Les Yes Chains sont finis par se dissiper. On commençait presque un peu à oublier Daniel Bryan. Son plan ne s'est pas mis en marche, quoi. Clairement, il commençait un peu à disparaître. Il a été remplacé un peu par AJ Styles, hein. Finalement, c'était AJ Styles qui avait les faveurs du public. Et puis, à son nouveau mantra dont il nous avait parlé tout au début, hein, lors de son discours de retour. Et j'ai trouvé ça très, très fort. C'était vraiment une très belle écriture, cette promo. Il dit « Fight for your dream and your dream will fight for you ». Et ça, ce mantra lui est revenu lors de son match face à AJ Styles, match donc, où il a fini champion. Et donc, il s'est retrouvé dans ce match-là, hein, avec un AJ Styles, une opportunité qui s'est offerte à lui. Et du coup, bah, ses fameux rêves se sont battus pour lui. Ses fameux rêves ont pété les couilles de AJ Styles pour donner naissance au nouveau Daniel Bryan. Un Daniel Bryan qui est champion. C'est donc un nouveau Daniel Bryan qui n'en a plus rien à faire des autres, qui, tout le long de la promo, se déplace très bizarrement, comme un gollum.
Ouais.
Comme un gollum. Ouais.
Il comme pendant son match contre Lesnar, un peu aussi.
Ouais, comme voilà.
Façon de laisser les bras pendre un peu, là.
Ouais, les bras qui pendent, les genoux pliés. Vraiment comme une créature de la nuit.
Ouais.
Une créature de la nuit. Tu vois, comme dans un film d'horreur, ils sont pourchassés par des créatures dans des grottes obscures. Et nous avons donc là le nouveau Daniel Bryan, officiellement, hein, qui fait sa sortie de placard, hein, son...
C'est ça, son coming out.
Comment tu dis ça ? Il s'est outé, quoi.
Coming out, ouais, ouais.
Son coming out, voilà. Il fait son coming out, je suis nouveau Daniel Bryan. Et du coup, on se retrouve comme ça, avec un nouveau Daniel Bryan très sombre, hanté... Qu'est-ce que tu as... Et surtout, qui nous a raconté une histoire que j'ai trouvée, qui allait chercher loin et qui était très belle, quoi. Dans son obscurité. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Il a aussi parlé de Brock Lesnar. C'était une promo incroyable. C'était une promo vraiment incroyable. Là, c'est du caviar, ce qui nous fait Daniel Bryan entre son match au Survivor Series, que j'ai trouvé exceptionnel dans son acting et dans sa façon de réinventer son catch en heel. Et ben là, cette fois, il nous a fait le pendant, mais version micro. Donc, on a eu vraiment le truc en deux chapitres entre les Survivor Series et ce SmackDown. On a eu la partie ring et la partie micro à SmackDown de ce nouveau Daniel Bryan, qui est absolument captivant. Son histoire, tu l'as bien raconté, elle tient la route. Il s'est senti remplacé, il s'est senti perdu finalement dans sa quête et puis ses rêves dont il parle et cette façon qu'il a de parler de son ancien lui à la troisième personne, ça a fini par prendre le dessus dans sa tête. Tu sens que c'est beau parce qu'il arrive à nous raconter un truc où c'est à la fois ça se tient mais en même temps tu sens qu'il est complètement tourmenté et complètement perturbé par ce qu'il est en train de raconter, donc du coup tu peux pas non plus embrasser son histoire et te ranger derrière lui parce qu'il a clairement l'air dérangé et il a clairement l'air de pas du tout savoir ce qu'il est en train de raconter, même si c'est censé, il a l'air fou en fait. Donc c'est super bien joué, il est habité par ce nouveau personnage et moi je trouve que c'est juste incroyable d'arriver. Quand tu as ce niveau de popularité, parce que c'est le face ultime, c'est le favori de la foule, la foule lui mange dans la main. Bah justement, la foule lui mange dans la main jusque dans les parties les plus sombres en fait de son personnage, puisque là, il a tué toute pop, toute sympathie auprès du public. Il a captivé tout le monde qui était pendu à ses lèvres du début de sa promo jusqu'à la fin. Et d'arriver à faire ça quand tu es un super face et de faire un turn aussi franc et aussi malsain, je trouve que ça relève encore une fois, comme pour son match contre Lesnar, ça relève du génie vraiment catchesque d'arriver à faire ça. Et moi, j'étais subjugué par sa promo et j'ai vraiment très très hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite avec ce personnage qui est captivant dans le mauvais sens, qui est captivant par ses mauvais côtés là. Donc,
d'ailleurs, tu parles de Brock Lesnar, c'est vrai, là, je ne l'ai pas mentionné pendant mon discours. Il explique que pendant son match face à Brock Lesnar, il a laissé gagner Brock Lesnar.
Réveille quelque chose en lui.
Voilà. Pour éliminer.
C'est vrai que ça explique un peu le regard qu'on voyait à la fin du. Les dernières images de Survivor Series, c'était évidemment Brock Lesnar sous le titantron, mais c'était aussi ce regard très malaisant de Daniel Bryan battu au centre du ring, mais qui avait l'air presque heureux d'avoir été battu. Il avait ce petit sourire, ses yeux malicieux un peu. C'était très étrange. Donc on a l'explication.
On a l'explication. On a l'explication, c'est très très fort. Il a donc laissé Brock Lesnar détruire toutes les dernières faiblesses qu'il avait en lui. Et très drôle, à la fin, il va voir l'annonceur et il lui demande de l'annoncer comme étant le nouveau Daniel Bryan. Et j'espère vraiment qu'il va faire appeler ainsi à chaque fois The New Daniel Bryan à chaque fois qu'il sera annoncé, parce que c'est exactement ça. On a un nouveau personnage et c'est vrai...
Totalement différent. Ouais.
Totalement différent, c'est là où tu peux vraiment, tu parles de génie catchesque, de toute façon, c'est comme ça qu'on peut mesurer effectivement, probablement, les génies du catch, en tout cas ceux qui embrassent comme ça des personnages très forts, c'est que ces mecs ne se contentent pas de juste devenir heel, donc juste de devenir méchant, en ayant presque le même perso, juste voilà,
je tape un gentil, donc je suis méchant. Ouais.
Voilà, c'est ça, mais qui ont une évolution, un nouveau gimmick, hein, un nouveau personnage, qui est lié à l'ancien, mais qui est une nouvelle mutation finalement, et qui en plus est expliqué, raconté. Alors c'est très drôle parce que c'est un 3 years in the making, comme il disait, quoi. C'est-à-dire
ouais.
Une trahison là qu'il a faite lors du match face à AJ Styles. En fait, elle, ses racines remontent à très très loin. Et c'est très drôle parce qu'on avait aussi joué la carte de ça pour son match face au Miz, tu vois, on montrait qu'il y a plein de choses, ça date de très très loin. Et c'est très fort ce qu'ils font avec Daniel Bryan, parce que à la fin tu fais ah ouais d'accord, enfin c'est très très fort de réussir à ce que tout se tienne, parce que sait qu'en termes d'écriture il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire à WWE, mais là en l'occurrence cette évolution difficile, du personnage, ouais. elle est magnifique, hein, clairement c'est le genre de choses qu'on voit très très peu. Très rarement dans le catch, en tout cas à WWE, cette qualité d'écriture dans les personnages et cette qualité d'interprétation, hein, parce que le mec est habité
non, par... Mais oui, c'est surtout ça quand même, ouais, c'est qu'il arrive à te faire adhérer complètement à son discours, et c'est très fort, voilà, je me répète, mais d'arriver à te faire adhérer à son discours sans pour autant l'apprécier et l'aimer, c'est encore plus dur quand tu sais la popularité dont il jouit. Donc c'est ça qui est exceptionnel aussi dans cette promo, c'est que à aucun moment les yes chants sont étouffés tout de suite.
Il se fait huer quand même. Où tu vois des Becky Lynch, des Charlotte qui ont des agissements terribles de heel qui sont popés de dingue, que Daniel Bryan, comme tu as dit, le face ultime de la WWE, l'underdog, le mec qui a offert des images de liesse générale incroyable pour le faire à la WWE, arrive à ne tirer aucune pop de cette longue promo, même son arrivée où il avait encore rien dit, les gens étaient pas contents de le voir, c'est un vrai méchant, quoi. Et...
Donc, il a je sais pas, cet aspect presque de vilain de film, tu vois, genre très 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 sombre. Enfin, ouais, là, on tient quand même en ce moment là des turns absolument exceptionnels, je trouve. Et celui-ci là m'a vraiment subjugué.
On peut le dire que c'est presque l'année des turns. On fera l'inventaire quand on arrivera à la fin de l'année, ce qui arrive bientôt. Mais en tout cas, là, ces derniers, je sais pas si c'est l'année, mais en tout cas, c'est la saison des turns.
Ouais, cet automne-hiver 2018 aura été fort en retournement d'alignement. Ouais.
Bon, du coup, c'est comme ça que se termine cet épisode du supplément SmackDown. C'est l'heure de faire l'inventaire, justement. C'est l'heure du mot de la fin. Giscal, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Oui, alors, ma note. Malgré toutes les belles choses qu'on a sur les promos, j'ai pas été quand même transcendé par cet épisode qui était très promo en fait, hein. Concrètement, si vous étiez fan de catch cette semaine, passez votre chemin, regardez les highlights sur la chaîne WWE des promos, mais sinon je pense que niveau catch vous n'aurez rien raté, et c'est un petit peu ce que j'ai trouvé dommage, c'est que finalement on a eu des beaux angles, des belles ouvertures pour la suite de SmackDown, mais assez catch, donc je mettrais un 2,75, un petit peu juste en dessous de 3, mais quand même ouais, j'ai pas Il y a, voilà, j'avais les promos cette semaine, mais franchement, je me suis surpris à pas mal avancer sur tout le reste du show parce que voilà, les matchs n'étaient pas transcendants. Quoi. Puis en plus, ouais, quand tu n'es pas fan de Thanksgiving, je pense qu'il y a une partie de l'émission que tu zappes aussi. Quand tu n'es pas fan de Thanksgiving, ça ne fait rien dire. Quoi. Mais quand tu ne célèbres pas Thanksgiving. Donc, 2,75, peut-être un peu sévère. Mais bon, voilà. Mon top, c'est indéniablement Daniel Bryan. On en a suffisamment parlé, on ne reviendra pas là-dessus. On a très, très, très hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Et mon flop, c'était un peu compliqué cette semaine. Il est un peu paradoxal, mais mon flop, c'est je le mettrais peut-être sur la crainte que m'inspire la promo de Charlotte en fait en début d'émission. C'est finalement cette impression de ne pas savoir sur quel pied danser. On en a beaucoup parlé au début du podcast, de se dire est-ce que c'est un copier-coller, est-ce qu'elle remplace Becky Lynch, est-ce qu'ils sont pas en train de passer à côté de quelque chose en voulant absolument remettre les wagons dans le sens dans lequel ils étaient avant l'émergence de The Man. Je vais mettre un flop de prévention là-dessus parce que ça m'a quand même
un pré-flop
sur cette promo qui m'a pas mal perturbé, à la fois excité et perturbé. Voilà, on en a déjà parlé, mais attention, on sait jamais avec la WWE et leurs obstinations. Parfois, je le reconnais, hein, je les adoube souvent, mais ils ont des obstinations un peu bizarres parfois. Donc attention.
Ok, tu sais quoi, moi je vais mettre un autre pré-flop. En fait, concrètement, j'ai le même flop et le même top que toi, mais pour enrichir nos mots de la fin, je vais mettre un pré-flop sur la division féminine et ces histoires de tag team là. On a construit plein de tag teams depuis des semaines et des mois. On a même mis un terme, pour la cinquième fois, mis un terme à une rivalité du côté rouge entre Banks et Bayley pour justement les mettre en équipe. On construit des tag teams féminines.
Ah oui, c'est clair.
Qu'est-ce qui se passe? On en fait un. Il faut y aller maintenant. Ils ont plusieurs occasions pour le faire. Ils ont comme Evolution. On s'attendait peut-être à ce qu'il y ait une grosse annonce à ce niveau-là, il n'y a rien eu. Il y a les Survivor Series où ça aurait pu aussi être une occasion de créer une nouvelle division, par exemple, en se faisant s'affronter des équipes du show rouge contre le show bleu. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, c'est bien beau de donner du temps d'antenne à ces équipes-là, mais il faut quand même, à un moment donné, tirer son coup, appuyer sur la détente, et on va la créer cette équipe, cette ceinture qui pourrait être une ceinture interbrand en plus. Enfin, voilà, il pourrait y avoir juste un titre qui se passe d'un show à l'autre. Ça pourrait être sympa en plus. Donc voilà, un pré-flop aussi. Toi, attention.
Voilà.
Il serait temps de faire quelque chose avec ces filles. Et du coup, alors mon top, c'est Daniel Bryan, évidemment. C'est Daniel Bryan. J'aime bien aussi compléter, mais je vais le donner à Daniel Bryan parce que c'est juste, c'était formidable ce qu'ils ont fait.
C'était trop fort.
Ouais. C'est du génie tout simplement. Bravo monsieur.
C'est ça, c'est tout. Hein. Ouais.
Bravo monsieur. J'étais tellement frustré et un peu triste du retour de Daniel Bryan en me disant ok, finalement. J'étais pas excité, toi, hein, par son retour, finalement. J'étais content. J'étais pas excité par son retour, j'étais juste content pour lui. Mais c'est tout.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait un peu ce sentiment-là qui commençait à se dégager de son. C'est vrai que tu te disais, bon, finalement, si c'est juste, ça aurait été beau qu'il nous rejoue cette quête du titre, mais c'est vrai que, d'une certaine manière, on l'avait déjà un petit peu eu, et puis finalement, ce qu'on retenait de son retour, c'était qu'on était avant tout content qu'il soit revenu dans le ring, mais c'est tout, quoi. Il y avait rien de groundbreaking, quoi. Enfin, genre, dans son retour, c'était assez, il est revenu, face, yes,
là, voilà, grand,
yes, yes, yes. et puis, voilà, quoi. Et puis, ça donne une toute autre dimension à son retour.
Bon, ça nous fait deux pré-flops et un double top. Et moi, ma note, par contre, je vais mettre un bon 3,25 quand même, parce qu'il y avait quand même la sacrée promo. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de catch,
mais il y avait la sacrée promo.
Donc, je trouve qu'on est pas mal reparti là. On va de l'avant. Donc ça c'est pas mal. Un bon 3,25 pour SmackDown. C'est l'heure de l'autopromo, comme dit Raphaël. Catch Up, c'est évidemment votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Pour ne manquer aucun épisode, aucune analyse, C'est très simple, il suffit de s'abonner soit sur YouTube, Catch-up CDC, soit sur iTunes ou PodCloud pour la version audio, comme ça, ça tombe directement dans vos cages à miel. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch-up CDC. Vous pouvez également nous retrouver sur le Discord, rejoignez-nous, comme ça on tchatche entre amateurs de catch de bonne compagnie. Tous les liens sont évidemment dans la description de la vidéo, n'hésitez pas également à partager en commentaire sous la vidéo YouTube votre top, votre flop et votre note. Nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau Daniel Bryan? Et n'hésitez pas également à nous mettre des pouces, des étoiles, des cœurs. Voilà. Tout ça qui nous aide un petit peu à être un peu plus visible. Et on vous remercie évidemment de nous suivre un peu plus nombreuses et nombreux chaque jour. Je remercie évidemment Giscal, hein, toujours pour cet esprit d'analyse aussi fin.
Ah, écoute, je trouve que voilà, merci beaucoup. Je te remercie pour toi aussi ton analyse. J'ai trouvé qu'on voilà, on a des sujets en ce moment de discussion à SmackDown qui sont top. C'est toujours avec autant de plaisir que je viens en discuter avec toi.
Pour moi, je spoil, Shane McMahon est un vrai catcheur.
Bien sûr.
Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez également en commentaire.
On en parlera la prochaine fois.
Ouais. Oui, on aura le temps d'en reparler. Je pense qu'on va le voir un petit bout de temps encore, l'ami, le fils du patron.
Ouais.
Allez, on vous souhaite et à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut.
Allez, ciao, ciao tout le monde.
Comment ça s'appelait la chambre de Daniel Bryan dans laquelle il dormait là, ces trucs d'oxygène là, c'est pour les cyclistes.
Ouais.
Ça s'appelle comment? Une chambre quoi déjà?
Hyperbaric chamber là, mais je sais pas ce que c'est en français.